Bien. Bien, allez, eh bien, on commence. Ceci est la dernière séance de la série consacrée à la céramique. Alors, je vous rappelle les séances précédentes, simplement pour mieux expliquer celle d'aujourd'hui. Vous vous rappelez que la première séance était consacrée à des questions touchant aux formes, mais aussi aux techniques. Et puis ensuite, les trois autres séances ont été consacrées pour la première à ce qu'on pourrait appeler les origines de la poterie et surtout de la faïence en Europe, les prémices en quelque sorte, à partir du début du XVIe siècle. Et nous avons regardé des centres de production de faïence en Europe au XVIe siècle, au début du XVIIe, en Italie, un peu en Espagne et en France. Et puis les deux séances d'après, nous sommes intéressés spécifiquement aux grands centres faïenciers français au XVIIe et XVIIIe siècle. Alors, je me suis posé la question pour la séance d'aujourd'hui de ce que nous allions faire, parce que, bien entendu, c'est un vaste champ, celui de la céramique, et il y avait deux solutions, soit celle de s'éparpiller, d'aller un peu dans d'autres directions et de voir plein d'autres choses concernant plein d'autres types de faïences dans plein d'autres centres. J'ai pensé que ce n'était peut-être pas la meilleure des choses et qu'on risquait finalement de décidément s'éparpiller. La deuxième solution étant de confirmer nos acquis, comme on dit en bonne pédagogie, et d'essayer de revoir un peu, à partir d'autres pièces, hein, d'autres œuvres, ce que nous avions vu les trois séances précédentes, pour essayer de décidément y voir plus clair, ce qui est déjà beaucoup, hein, à arriver à se dépatouiller à peu près, hein, dans la question de la faïence en Europe, en gros, du XVIe au XVIIIe. C'est déjà pas mal. Alors, des choses qu'on n'aura pas vues, mais enfin, on aura quand même vu pas mal de choses. Alors, bien sûr, j'ai choisi, par exemple, de ne pas du tout traiter la porcelaine, parce qu'on en a parlé un peu dans la première séance, hein, mais ça, c'est un autre domaine. Il y a des tas de choses qu'on n'aura pas vues. Mais enfin, je pense qu'après ces séances, vous aurez déjà une meilleure vision, si vous l'aviez déjà, de ce que c'est, décidément, que les grands centres faïenciers en Europe et spécifiquement aussi en France, entre les 16e et 18e siècle. C'est déjà pas mal, et je pense qu'il est important dans cette séance d'essayer d'y voir clair. Alors bien sûr, dans les quelques 30-35 diapositives que j'ai défilées maintenant devant vous, j'ai quand même mis quelques petites choses autres. Hein. Il n'y a pas que des choses il y a quand même quelques petites choses qui vont nous ouvrir les yeux vers d'autres directions, mais pas trop quand même. Hein. Je n'ai pas voulu non plus. Voilà, mais enfin, il y avait quelques petites choses dans le domaine de la faïence que nous n'avions pas vraiment vues et dont je pensais que c'était important de voilà, les évoquer. Ce qui fait que j'ai instillé quelques petites choses. Il n'y en a pas beaucoup, mais en fait, il y en a quelques-unes quand même. Bien. Prêt ? Et prête ?
Oui.
On s'y met ? Alors, allons-y. On commence par le début et par ceci. Bon, on peut peut-être rapidement parler du sujet, avant toute chose, après quoi on essaiera de voir où on est, quand, etc. Alors, quel est le... Bon, c'est un plat, hein. Ok, hein. Je crois qu'au niveau des formes, on a à peu près compris, on va peut-être pas revenir là-dessus éternellement. Qu'est-ce que ce sujet que vous voyez là?
Un sujet biblique.
Un sujet biblique, oui.
Mais c'est la distribution des mannes.
La distribution de la manne?
Oui.
Ça consiste en quoi? La manne est tombée.
Oui, pour alimenter les...
Elle est tombée d'où?
Du ciel.
Oui, effectivement, la manne tombe du ciel, c'est ce que vous voyez là. Vous voyez effectivement les Hébreux qui ramassent la manne. On voit la manne qui tombe hein, en pluie et des gens qui ramassent entre les tentes la manne, les morceaux de pain hein, qui sont tombés par terre. Bien, parfait. Donc voilà pour le sujet. Donc une scène effectivement biblique.
Une scène unique.
Une scène unique, oui, qui concerne aussi bien le bassin que l'aile. Mm-hmm. Le mari, oui.
Un grand feu.
Alors maintenant, on entre dans le dur. On est où? On est quand?
Faïence
de grand feu, ok.
Italie.
16e.
Italie, 16e.
La forme des tentes.
Pardon ?
La forme des tentes. on croirait le camp du drap dehors.
Ah, oui, c'est vrai que je n'y étais pas. Mais je, voilà, mais effectivement, ça rappelle tout à fait les temples du camp du drap dehors. Hein.
Oui. Mais pas les personnages.
Pas les personnages qui ici sont un peu néo-bibliques, on va dire. Hein. Notamment le personnage de gauche, bien reconnaissable, qui n'est autre que Moïse. Bien. Ok. Bien. Italie, 16e siècle, une idée d'un lieu, d'un centre, peut-être ?
Faenza.
Quand on dit faïence, c'est Faenza ? C'est ça ? Faenza. Ok. Bien. Eh bien, écoutez, on verra tout à l'heure ce qu'il en est.
Peut-être pas Strasbourg.
Donc on est là peut-être dans les, ce qu'on appelle les faïences de l'Est. Il y a peut-être pas Strasbourg, mais en tout cas dans ces secteurs. Hein. Ces villes satellites, vous en connaissez quelques-unes ?
Les îlettes.
Oui. Après, Niederwiller, on peut dire. Ok. Ça vous fait plus penser aux îlettes ou à Niederwiller ou à après ?
Moi, plutôt les îlettes.
Plutôt les îlettes.
Après, c'était très fin.
Après, c'était effectivement plus léger, moins, j'allais dire, une grosse cavalerie que ça. Hein. Donc, effectivement, je serai à votre place, je dirais plutôt. Voilà, les faïences de l'Est, c'est-à-dire Strasbourg ou les satellites, hein, qu'après, qui fait des choses un peu plus délicates. Bien.
18e. Bon.
18e, ok.
Rouen.
Grand feu.
Thème répétitif
autour, oui.
17e
plutôt que 18e. On verra tout à l'heure. Hein. Moi, je, pour l'instant, je reformule ce que vous dites. Hein. Donc, Rouen, faïence de grand feu, etc. D'ailleurs, Rouen, c'est du grand feu. Hein. Ok. Plutôt 17e que 18e. C'est des corps répétitifs qu'on a eu l'occasion de voir. Un décor de quel ?
Inspiré par la Chine.
Un décor chinisant. Ok. Donc au Rouen, 17e. Ok.
Perhaps, tout le monde n'est pas d'accord ?
Il y a des gens qui.
Si ? Vous avez le droit, hein ?
Il y a eu des
rouges
bleus aussi.
Il y a eu des rouges bleus.
Oui, on peut déjà peut-être commencer par voir ce que ça représente.
Oui, une scène bucolique.
C'est très bucolique.
Par contre, le petit paysage du fond, moi, il me fait bien penser à l'Italie.
Oui. Paysage du fond un peu italien.
Oui, et puis avec le truc qui n'est pas très déterminé, là, comme on avait vu avec ces faïences.
Donc, un traitement de la partie supérieure un peu, un peu flou, pas trop déterminé, donc il fait penser à des choses qu'on a vues en Italie, ok. Oui. Une scène rustique, effectivement, avec deux pèlerins ou deux bergers, on ne sait pas trop. Hein.
Qui regarde, qu'est-ce qu'il dit ?
Qui regarde le paysage. Oui, c'est marrant.
Il en est mollet.
Et alors, vous situez ça, donc vous êtes parti pour l'Italie, si je comprends bien, non ?
L'Espagne.
Ou l'Espagne ?
Oh non, c'était l'Italie qui faisait des trucs un peu légers. Comme ça.
Donc plutôt Italie.
Mais c'est quoi les deux bosses du haut, là ? Mais
c'est ça. Bah, c'est un paysage.
C'est
la roche de Solutré.
Il avait
des
ciels, un peu bizarres.
Oui, le ciel comme ça, un peu, tout ça est un peu fa presto. Hein.
C'est 16e.
Bien, vous mettez ça quand ?
16e.
16e, donc très tôt. Donc, Italie, 16e, une œuvre un peu comme ça, rapide, rapidement faite, hein, fa presto, fait vite, hein, ok ? Et avec un paysage comme ça, un peu décidément fait vite. Et donc une scène rustique avec deux pèlerins ou deux bergers. Hein. Bien.
Ah, piège.
Oui, oui.
Oh.
Moi,
piège. C'est vite, ça.
Ça, donc, ce sera un piège.
Oui, parce que ça, c'est plutôt turc.
Ça, c'est turc.
Ok, donc vous utilisez un mot
Iznik.
Donc, Iznik, c'est en Turquie.
C'est l'intrus.
Ah, ce serait un des intrus.
Ouais, ouais, ouais.
Bon,
ouais.
Il y en a plusieurs,
quand même.
Il y en a peu, mais il y en a. Donc, on a peut-être déjà vu, d'ailleurs.
Oui.
Voilà. Donc, Iznik, quelle date ?
16e.
Si vous aviez à caractériser cette pièce, vous diriez quoi ?
Floral.
Pardon ?
Floral.
Floral, et puis c'est les fleurs turques, le yé, la tulipe.
Des, effectivement, des thèmes un peu habituels, cette espèce de yais, hein, une sorte de tulipe comme ça. Hein, oui.
Et puis un marlier avec des formes géométriques.
Oui, c'est le marlier aussi très habitatif avec cette espèce de spirale comme ça. Hein. Ouais. Ouais. Effectivement, très très typique. Hein. Bien. Autre chose à dire ? Bon, donc un des intrus.
Et après,
Un pot. Oui, d'abord, qu'est-ce que c'est comme objet ?
Un pot, un vase, un
bouffier. C'est un grand comme ça.
Un encrier.
Un encrier.
Tu vois,
c'est petit, hein ?
Un big fleur.
Pardon ?
Un pot en gants. Il n'y aurait pas un couvercle. Il y a pas dessus.
Ah, ça c'est possible, effectivement.
Tu crois que ça se déroule.
Ça peut être.
Un pied de bougie.
Un pied de bougeoir.
On sait pas bien.
Donc, soit quelque chose d'un peu technique, du genre ancré au bougeoir, soit un vase type vase à pharmacie, pot en gants.
Oh, pas si petit.
Oh, un petit onguent, un peu rare.
Il
n'y a pas de...
C'est ouvert ou
dessus ? Alors, le dessus, il n'y a pas de couvert. Ou il n'y en a plus, je ne sais pas. Hein. Enfin, je sais, mais... et voilà. Et donc, c'est creux au-dessus, quand même. Hein. Pardon ?
Si entre la partie supérieure et la partie en dessous, c'est ouvert ou fermé.
On va dire là, c'est vraiment qu'une seule pièce. C'est qu'au-dessus que c'est ouvert. Alors, y avait-il un bouchon ou pas de bouchon ?
On ne sait pas.
Ah, on sait, mais je ne dis pas.
On a vu ça la semaine dernière.
On a vu ça. Ça vous rappelle quoi, alors ?
On a vu la semaine dernière. Avec aussi, tu sais, les pieds là, avec les 18e.
Vous mettez ça quand ?
18e. C'était cette forme-là avec la coquille.
Non, vous mettriez ça avant ? Oui, très monochrome, effectivement. Hein. Pardon.
Vous aviez montré une petite jardinière, vous disiez c'est très Marie-Antoinette, c'est très monochrome.
Ah oui, vous vous rappelez d'où c'était, oui, cette pièce-là?
Juste que j'en ai.
J'ai le droit de regarder.
Justement, c'est ça qui vous fait penser.
C'est ça qui vous fait penser à quelque chose de. Du 18e,
monochrome. La faïence fine, là.
D'accord.
Mais là, je ne suis pas sûre que ça soit si fin que ça. Si.
La faïence fine, c'était Chantilly, ça.
Non, on n'a rien de Chantilly.
Non, on n'a pas
Sceaux.
Sceaux.
Ah oui,
Sceaux.
Sceaux. Oui, c'était Sceaux.
Bon, en tout cas, on aurait là une pièce plutôt 18e, dont on s'interroge sur sa fonction. Tout le monde n'est pas d'accord pour la situer au 18e. Hein. Certains, certaines la voient plus tôt. Voilà. Oui, et donc ça nous rappelle, en tout cas ça rappelle à certains, certaines, les faïences fines du 18e, où on met effectivement très en avant les formes très monochromes.
Ben là, il y a quand même un décor.
Hein. Il y a un décor.
Ah, il y a un décor.
Oui, il y a un décor.
Il y a même un blason au-dessus. Il y a plusieurs blasons qui sont répétés.
Avec des fleurs de lys.
Avec des fleurs de lys.
Bon, déjà, ça, c'est français. Oui, c'est Marie-Antoine.
Marie-Antoine.
S'il n'y a plus de tête, c'est normal.
Elles y sont.
Il y a un petit serpent sur l'un des ongles.
Oui, ils tiennent, alors je n'ai pas réussi à voir ce que c'était. Ils tiennent d'ailleurs les uns et les autres, effectivement, un petit serpent, vous avez raison.
Oui, oui, je dirais bien.
Là, vous remarquez la qualité, hein,
très
belle qualité du fer, extrêmement raffinée.
Sur le coffre
et... Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Sur le coffre.
Je ne sais pas, je crois bien.
Bon.
C'est beau.
C'est très beau.
Le double blason.
On a vu ça, la première scène. Oui, mais ça, double blason, ne peut pas vous entraîner vers une provenance.
Oui, non.
Parce que vous pouvez habiter Brest et commander une pièce à Marseille. Hein. Donc, le blason, c'est bien, mais ce n'est pas le seul élément qui peut vous dire... D'abord, là, c'est quoi comme type de pièce?
Un plat.
Un plat
rectangulaire avec simple.
Oui.
Un décor symétrique.
Oui, un décor très symétrique.
Avec des grotesques.
Un décor de grotesque.
Un peu passé.
C'est-à-dire qu'il est. Il est dans un bleu qui est un peu plus diffus que le bleu utilisé tout autour. Hein.
Oui.
D'accord. Ça vous fait penser à quel centre?
Nevers.
On hésite entre Moustier et Nevers.
C'est à côté.
Oui.
Oui. Vous penchez plutôt vers Moustier ou plutôt vers Nevers?
Plutôt
Moustier.
Ah. C'est pour le Moustier, les guirlandes, ça rappelle les guirlandes.
Oui,
les
guirlandes.
Mais il y a des personnalités, portraits, il y a quatre portraits.
Il y a quatre visages, en tout cas. Hein. Hein, vous voyez effectivement des visages aux angles. Bon, donc voilà un plat de Nevers ou de Moustier qui daterait de quand?
17e.
Ok. Eh bien, nous verrons plus tard.
C'est en relief.
C'est moulé.
C'est un plat en relief.
C'est juste décoratif.
Décoratif, oui. Pardon.
Un suiveur de palissy.
Un suiveur de palissy.
Oui, peut-être.
Peut-être.
Ouais. Est-ce que c'est le château d'Annette?
Ça pourrait y faire penser. Ça donnerait une idée alors de provenance de la pièce. Donc vous situeriez ça fin 16, début 17e.
Voilà.
Oui.
Non.
Et au niveau de la technique.
Annette, c'est Henri II.
Non. Pardon ?
Le château d'Annette, c'était le château que Henri II a donné à Diane de Poitiers.
Diane de Poitiers, oui.
Donc on est bien avant Henri IV.
Alors on est un petit peu avant, oui.
Un petit peu.
Mais on parlait après de Henri IV. Donc, bon, Henri II, Henri IV, il n'y a jamais qu'un 3 entre les deux. Hein.
C'est un paysage bucolique, parce qu'on voit un radeau qui est posé à côté d'un
château, une plaine,
une
bourde.
C'est très
joli,
ça passe
très bucolique.
Ça veut dire que c'est... La déesse Flora, la déesse Flora.
Flora.
Flora, oui.
Cérès.
Cérès.
Non, pas CRS.
Donc, un plat décoratif moulé avec un décor bucolique qui évoque Bernard Palissy ou son style, enfin voilà. On serait donc assez tôt, 16e, voire début du 17e, entre Henri II et Henri IV. Et la représentation d'une figure rustique qui fait penser à Cérès, par exemple.
La représentation n'est pas rustique.
La représentation n'est pas rustique.
Non, parce qu'il y a une perspective très forte. Hein. C'est curieux,
alors, disons, c'est peut-être pas rustique au niveau de la réalisation,
oui, voilà.
Mais de la représentation.
Oui, voilà.
D'accord. Bien. D'autres choses à dire?
C'est pas mal fait, parce que le drapé est beau.
Hein. Beau drapé, donc bien fait. Bah, si c'est pas ici, comme vous le disiez, c'est pas mal.
C'est pas un adjecteur.
Bien.
Parce qu'il y a de jolis verres.
De jolis verres.
Très jolis verres.
Ça, c'est une chinoise.
Ah oui, avec ce décor.
Voilà.
En grillage.
En grillage, les petites grillages.
C'est Marseille.
Marseille.
Marseille, ça peut.
Il y a du jaune.
Vous disiez
le roi, des
Rouen,
en haut,
à Rouen, à cause de motifs de grille, enfin de résine. Donc certains pensent à Marseille, décors chinois.
Voilà, il y a eu partout des décors à la chinoise.
Oui, il me semble, mais.
Donc
il y a les tenants de Marseille et les tenants, ou au moins la tenante, de Rouen.
Hein? C'est la mer parce qu'on voit
des crustacés.
Bah, déjà,
il y a une sorte de lagon. Je pense qu'il y a des nénuphars.
Sur le
marlis,
il y a des crustacés.
Ah, sur le marlis, oui.
C'est des nénuphars.
Là, oui, je pense que c'est plutôt... Parce que là, vous voyez de l'eau, et il y a des vents, il y a des petites choses dans l'eau, donc je pense qu'il y a des nénuphars, des lotus. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit représenté de manière très botanique. Hein. Enfin, c'est une idée. Hein. Donc, un décor sinisant, une pièce de Marseille, mais certains ne sont pas trop d'accord, ils voient plutôt une pièce de Rouen. D'autres avis? Pardon.
C'est toujours au bord de la mer.
Au bord de la mer, ou en tout cas au bord de l'eau. Ouais.
Rouen, c'est au bord de la Seine.
La Seine.
Oui, la mer n'est pas loin. Pardon.
Il y a une sorte d'oiseau.
Oui, une espèce d'oiseau, une sorte de phénix, qui volette, avec un papillon à côté. On remarque que les fleurs sont aussi grosses que les pagodes. Hein.
Oui, c'est un insecte.
Oui, c'est un insecte. Bon, est-ce que vous avez d'autres remarques sur cette pièce?
Non.
Ça vous va?
Oui.
Bien. Alors, on va aller vers la suivante.
Très bien.
Très bucolique.
Le berger et la bergère, le berger.
Un dessin unique, du diote.
Un dessin unique sur toute la pièce, qui est une assiette.
C'est 18e, ça, je ne sais pas, 18e.
Plutôt 18e. Et alors, on est où, là?
On est dans la campagne.
Ah oui.
Au bord de l'eau.
Oui.
Les bergers et la bergère.
Ok. Mais alors, on a fait ça où?
On a fait ça.
Là est la question.
Ça ressemble à l'Italie.
Non Italie. Italie, quelle époque?
18e.
Italie, 18e.
Ouais.
Ça va à tout le monde, ça?
Non, mais oui, je sais pas. Bah, les vêtements.
Le style de maison.
Ouais. C'est de maison, 18e.
Les Italiens qui sont venus en France. Après, oui, on a beaucoup à Nevers. Quand on a fait Nevers, il y avait beaucoup de style italien.
Oui,
à Nevers. Ça peut être Nevers aussi.
Ah, ça peut être Nevers. Ouais. Il y a un Nevers italianisant.
Voilà.
Un peu.
Ouais.
Ouais.
Bon.
Donc, soit Italie 18e, décor rustique, soit Nevers copiant l'Italie. Puisqu'on a vu
les
faïenciers de Nevers, mais pas que Nevers. Ouais. D'où encore?
Rouen.
Ouais, par exemple. Lyon. Ouais. Reprenait des décors italiens à quelle époque?
17e.
Ouais, c'est plutôt 16e, voire début 17e.
Ouais.
Donc là, ça rendrait cette pièce plus ancienne.
Oui, mais les habits de la dame.
Oui, ça fait quand même penser au.
Donc il y a un petit problème entre les habits de la dame,
oui.
Vous situez au 18e, et la pièce, si elle n'est pas italienne, qui serait 16e ou début 17e.
Oh non.
Non. Donc vous préférez quoi? France début 17e ou Italie 18e? C'est là le choix.
Italie
18e. Italie 18e? Ouais. Bien. Eh bien, nous verrons tout à l'heure.
Ah, ça, c'est l'Italie. Ça, c'est l'Italie. Ça, c'est l'Italie. C'est l'Italie.
Très bien, bon ben là, on a, hein, on a, voilà.
C'est une belle
lame,
Giovanna.
Giovanna Belle, hein. Voilà, les belles les données, hein. Donc c'est une céramique du type de ce que l'on a déjà vu, hein, sauf qu'elle est différente. C'est une belle ladonna, hein, une belle dame, hein. Ça a été fait, donc vous dites en Italie, et où et quand? Deruta.
Faenza.
Faenza. Bon, on va dire toute l'Italie a pu faire ce genre de choses. Hein. Il y a peut-être un centre qui en a fait plus que d'autres. Deruta, dont vous disiez.
Oui.
Gubbio.
Gubbio.
Ok.
Ça pourrait presque être
Venise
avec le.
Ah, ou Venise.
Ah. 16e.
Oui, vous mettez ça au 16e.
16e.
Allons-y pour le 16e. Eh oui. Eh oui. D'abord, qu'est-ce que ça peut représenter, ça? On ne voit pas très bien. Hein. C'est pas très facile.
Oui, il y en a qui n'ont pas de tête. Il n'y a pas de tête. Si, si, elle est penchée. Non, elle est penchée sur la tête. Sur la tête.
Il a des feuillages.
Il y a effectivement un personnage là qui semble un peu affalé, hein, avec la tête qui penche, une petite couronne.
Il a picolé parce qu'il y a une amphore en dessous.
Ici, bah, là, il y a un bouton anti-satire. À droite, là. Oui, il y a un vase vide. Donc, il aurait vidé le vase. Ce qui expliquerait son état léthargique.
Ah oui.
Hein, pas bon. Ce serait qui alors?
Bacchus.
Un Bacchus, peut-être.
Et puis un faune là. Il n'y a pas des petites cornes
là? Ben, on voit mal, mais s'il n'en a pas, il pourrait bien en avoir. Hein.
Mais si c'est Bacchus.
Donc ce serait un faune.
Oui, c'est normal.
Ok. Donc quelque chose qui montre une ivresse bachique, voilà. Comme on en a déjà vu, hein, je vous rappelle.
Oui, oui, oui.
Ok. Et puis tout autour, ben, il y a les petits poutilles. Voilà.
On en a vu un qui ressemblait à ça, avec plein de poutilles.
Ouais. Alors c'est majolique, effectivement. Pourquoi est-ce qu'on appelle les majoliques majoliques?
Parce que ça vient de Majorque.
Majorque. Alors ça vient, elles viennent, ces œuvres viennent toutes de Majorque?
Non.
C'est la technique et voilà. Le style.
Voilà. Disons que le style vient de là, et surtout, Majorque était un point de passage, hein, qui permettait d'expédier. Voilà. D'où le nom de majolique. Très bien. Alors, c'est une majolique. Ça représente une ivresse bachique. Ça a été fait où? Ça a été fait quand? On a vu une pièce presque équivalente. Hein. Enfin, il y a pas mal de pièces, on aurait vu.
Oui, mais elle était vraiment pareille avec le petit poutine.
Ouais. Avec ce bleu très caractéristique.
Ouais, ce bleu, oui. Très foncé, qui était un peu passé.
Rouen?
Rouen.
Alors, je ne sais pas si c'est cassé ou si c'est qu'il y a eu un défaut de cuisson, ce qui est possible aussi. Hein. Un défaut de cuisson ici. Alors, soit elle a été cassée ou rayée, ou alors, mais il aurait fallu bien y aller, hein, ou alors un défaut de cuisson qui a créé une sorte de fêle, vous voyez. Les trois choses sont aussi. Il faudrait voir de près.
Oui, ça, c'était Rouen. Rouen. Il me semble. À force d'en voir.
Ah oui. Et pourtant, il n'y a pas d'autre solution pour se les mettre dans l'œil. À la fois, il faut en voir beaucoup, et puis il faut essayer de ne pas trop mélanger. C'est pour ça que j'ai souhaité qu'on se concentre sur les choses pour ne pas voir trop de choses trop au d'un moment.
Et malgré tout.
C'est difficile. Et malgré tout. Voilà. Bon, en tout cas, une majolique.
Rouennaise.
Et on est quand alors?
16e, 17e,
ok, avec un décor d'ivresse bachique, super. Un canard.
Deux canards.
Pardon?
Monochrome.
Faïence, deux grands feux. Un décor monochrome, enfin, faïence, un décor de grand feu monochrome.
Très chargé sur le mari.
Très chargé sur le mari, ouais.
Le mari qui est très large.
Un large mari, un mari large.
C'est pareil, c'est des copies de Chine.
Oui, alors, je ne sais pas si on peut dire copier, en tout cas, c'est inspiré.
Oui,
très inspiré de l'Orient. Oui, oui. Oui. Donc, effectivement, on a là une pièce en faïence de grand feu, un décor polychrome, très inspiré dans son décor de la Chine et de l'Orient. Quand on dit Chine, ça peut être Chine-Japon, hein, voire Corée. Hein. Enfin, Chine. Et ça, ça a été fait où et quand? Je suis désolé, je pose toujours les mêmes questions. Hein. Je radote.
Il y a des sortes de médaillons, on ne voit pas ce que ça représente.
À quel endroit?
En haut, par exemple.
Oui.
Vous parlez de cela, peut-être?
Oui,
ça.
Alors, ça, justement, c'est ça qui me faisait un peu parler de Japon, parce que c'est en fait des natures mortes, avec des objets, notamment
qui sont beaucoup moins symétriques.
Les vanneries.
Vanneries
japonaises.
C'est ça, japonaises. Et donc, vous avez là à la fois plusieurs objets, si vous voulez. Voilà. Petite nature morte. Alors, qu'est-ce qui a fait ça? Enfin, ce genre de pièce-là. Ça vous rappelle quoi que l'on a vu?
Oui, ça oui.
L'inspiration.
Ouais. L'inspiration, comme ça, oui.
Mais où?
Et puis on retrouve là les petits croisillons, très typiques.
Petits croisillons, on n'était pas d'accord sur le lieu tout à l'heure. Hein. Certains disaient Marseille, d'autres disaient Rouen.
Hein?
Donc c'est le grand écart.
Moi je dirais Rouen. Là.
Rouen plutôt,
ouais. Avec le bleu.
Rouen, ah, le 17e. Bleu de Rouen.
Ouais. Rouen 17e. Il est un peu palo, je trouve.
Un bleu palo de Rouen. Bon. Bon, bah écoutez, on va essayer de rendre les choses plus nerveuses. Et effectivement, c'est une assiette creuse, parce que c'est pas très grand, donc c'est plutôt une assiette qu'un plat, a priori. Un décor floral. Ça nous rappelle les choses qu'on a déjà vues aujourd'hui.
Ah ouais, les petits insectes qui
volent. Ouais, les insectes qui volent. Ça vous rappelle quoi? Pardon? L'Est, Strasbourg, etc. Donc, faïence de l'Est, 18e peut-être.
Ouais.
Faïence de l'Est, 18e. Ça vous va, ça?
Oui, allez.
Je ne vous sens pas.
On n'est pas convaincu.
Alors, qu'est-ce que vous avez droit d'en proposer?
Rien.
Pour moi, c'est clair.
Notre désarroi. Ouais.
Ça ne vous rappelle rien de ce qu'on a vu, sinon de la faïence de l'Est, tout à l'heure.
Ici.
J'ai même fait une remarque à cette occasion. Ouais. En voilà, on n'écoute pas.
On écoute trop.
Bon, on verra tout à l'heure. Allez. Alors, le sujet, d'abord, commençons par là. Quand il se passe des choses, autant commencer par les sujets. Encore une fois, on ne reparle pas, sauf dans des cas particuliers, des formes. Quand c'est petit, c'est plutôt une assiette. Quand c'est grand, c'est plutôt un plat. Voilà, on n'a pas à faire réagir là-dessus. Hein, je crois qu'on a tous compris. Maintenant, quel est le sujet?
Une scène mythologique.
Une scène mythologique. Qu'est-ce qu'on y voit?
On y voit Aphrodite, puisqu'on voit les petits cupidons, les petits anges.
Aphrodite. Oui, on voit deux sortes de cupidons, effectivement.
Il y en a même un derrière.
Oui.
On a trois.
On a trois. Et puis.
Mars.
Donc ce serait Mars et.
Vénus.
Et Vénus. Oui, c'est passé par une petite chose.
Elle a gardé ses chaussettes.
Pardon?
Elle a gardé ses chaussettes, c'est curieux.
Alors, en fait, c'est des petits. Je pense que c'est plutôt des espèces de sandales montantes, vous voyez. Donc, c'est Mars et Vénus. Ok.
Donc, c'est une majolique.
Une majolique.
Toujours d'inspiration italienne.
D'inspiration italienne. Et pourquoi d'inspiration italienne?
Ou italienne.
Italienne, mais d'inspiration italienne. Okay. Et d'où? Ça paraît si c'est italien ou d'inspiration italienne. Ah, ouais, c'est là que les Athéniens. Ah voilà! Oui, elle serait intacte, il n'y aurait pas de problème. Là, il y a une petite brèche, c'est compliqué.
Non, mais italienne, parce qu'elle voit ces paysages un peu bizarres.
Ouais. Donc plutôt Italie alors?
Italie.
Plutôt Italie.
17e.
17?
Italie 17e.
Bien, donc une pièce italienne à décor mythologique, réalisée en Italie. Peu, bien sûr, sauf que le centre en Italie, on n'est pas.
Gubbio.
Peut-être Gubbio. Bon. Bien. Bah. On verra.
Oui, parce que j'ai
un décor au chinois, ça nous change.
Monochrome,
bleu monochrome de grand feu.
Avec deux choses superposées aussi.
Ouais, différents niveaux, effectivement. Ça vous rappelle des choses qu'on a vues dans les
dans les séances précédentes, oui, mais lesquelles, voilà.
Mais c'est ça qu'on cherche.
C'est
un vite fait, là. Presto.
Oui, quelque chose d'assez rapide. Donc ça vous fait penser à l'Italie.
Presto.
Non.
Moustier.
Pardon.
Moustier.
Non, plutôt la France. Oh, en vrai, on ne sait jamais très bien dans ce genre de scène. Hein. On avait vu dans des cas précédents que c'est souvent des scènes un peu improbables. Là, il tient peut-être un livre ou. Voilà, des. En même temps, ça ne ressemble pas vraiment à un livre. Bon, on a remarqué que ces scènes étaient souvent, je veux dire, un peu.
Imaginatives.
Oui, c'est ça. Elles ne sont pas très précises. En fait, des personnages en train de faire des choses. Pas toujours très très clair quant à leur manière de faire. Autrement dit, vous remarquez que ces deux Chinois sont dans une maison qui n'a pas l'air très chinoise.
Non. Elle a quand même des toits pas de toits.
Oui, c'est ça. Mais enfin, il y a bien que ça qui est.
Oui, il y a Rex. Voilà.
La semaine dernière, il n'y avait pas dans l'Est aussi qu'il y a un atelier qui a poussé des choses comme ça. Dans l'Est.
Comme ça ? Eh bien, nous verrons au moment du ramassage des copies. Il y en a des choses à voir, hein. Ah oui, ça du chinois, on en a vu beaucoup, mais on continue à le faire. Décidément, l'inspiration extrême orientale est très très importante. On a vu pourquoi, vous rappelez pourquoi? Pourquoi? Alors, oui, mais quoi la Compagnie des Indes? Parce que la Compagnie des Indes, je vous rappelle, c'est une compagnie qui est établie en Chine, alors, il y a d'autres filiales, mais enfin en Chine, et qui, en Chine, fait des pièces céramiques, volontiers en porcelaine d'ailleurs, hein, pour la clientèle européenne. Hein. C'est une importation de l'Extrême-Orient jusqu'à l'Europe, déjà. Hein. Voilà. C'est ça, la Compagnie des Indes. Donc ça, c'est Compagnie des Indes ?
Non, les ateliers...
Non, c'est
copie. C'est donc des copies, qui copient, d'accord, les Indes. Ils copient que la Compagnie des Indes, que les pièces issues de la Compagnie des Indes. C'est-à-dire.
Tous les thèmes sont bons.
Pardon.
Tous les thèmes sont bons.
Oui. Mais quand vous dites ça, ça veut dire quoi?
Vous inspirez beaucoup de choses.
Mais encore.
De récits de voyage.
Les récits de voyage. C'est-à-dire que de Chine, on ne ramène que des objets de la Compagnie des Indes.
Non.
Ah. On ramène quoi?
Des tissus.
Des épices. Et pas du tout de faïence chinoise.
Ah,
d'accord. Donc on ramène aussi des objets chinois.
Oui.
Ok.
Mais on copie des objets chinois.
Puis après, voilà. Donc on ramène extrêmement rien. Parce que les objets de la Compagnie des Indes, c'est fait en Chine, mais à la manière européenne.
Oui.
D'accord. Les objets qui ont pris les Indes singent les productions européennes. Très souvent. On voit bien que c'est fait en Chine, hein, parce qu'il y a un petit côté, mais ça singe les productions européennes. Sauf que c'est dans des matériaux différents. La Compagnie des Indes, c'est ce que fait la Chine aujourd'hui. C'est du néo-occidental fait en Chine, comme aujourd'hui. Hein, c'est des trucs en plastique représentant Mickey, etc.
Oui, mais à l'époque, c'était très intéressant parce que c'était de la porcelaine,
voilà.
Non pas de la faïence.
C'est ça.
Mais c'était très solide.
C'était de la porcelaine, puis c'était précieux. Et en Europe, on ne faisait pas de porcelaine. Donc la Compagnie des Indes faisait des porcelaines néo-occidentales en Chine pour la clientèle occidentale. Donc si vous voulez, en fait, copier la Compagnie des Indes, ça revenait à copier des décors occidentaux. Donc on n'amenait pas du tout que des choses à la Compagnie des Indes. On amenait aussi beaucoup de choses réellement faites en Orient et de style oriental. C'est-à-dire des choses chinoises, des bouddhas, etc. Et c'est ça qu'on copiait dans ce genre de pièces, vous voyez ce que je veux dire? En fait, on ne copiait pas la Compagnie des Indes. Qui, elle, copiait l'Occident. On copiait des choses réellement orientales, importées d'Orient. D'accord ? Et une pièce comme ça, ça copiait plutôt, ben, effectivement, des petites chinoises, des estampes japonaises. Vous voyez ? Donc, un décor sinisant, effectivement, comme on en a vu beaucoup. Alors, on fait ça où ? On fait ça quand ?
C'était la mode aussi.
Pardon ?
C'était un courant, une mode aussi.
Ah oui, absolument.
notamment au 18e. Hein,
c'est, le 18e, c'est très...
Alors, ça a commencé dès le 17e, mais au 18e, c'est très fort. Ouais.
18e.
Donc, 18e. Et où?
Ben, on reconnaît des petits insectes, elles sont de papillons, on les a déjà vus il y a quelques années.
Ah, ça vous rappelle les papillons de tout à l'heure?
Ah, oui, oui, on retrouve ces insectes, ces papillons.
Ouais.
Bien. Et puis la maison, ben, on en a vu la dernière fois qui ressemblait à ça.
Ouais.
Et c'était un moustier.
Ah, moustier. Donc on serait à Moustier au 18e.
18e.
Ok. Eh bien, aussi pour Moustier, 18e. On n'a pas vu celle-là parce qu'il n'y a aucune redite, mais ça doit vous rappeler, comme toutes les autres d'ailleurs, des choses. Faïence de l'Est, oui, on avait parlé choc germanique, vous vous rappelez, hein, ça, hein. Donc on est dans l'Est, donc en Alsace.
Strasbourg,
c'est quoi là, hein? Donc Strasbourg, 18e. Ouais, non.
Oui,
non.
Oui,
ouais.
Oui. On n'avait pas dit que c'était justement pas l'Est, mais plutôt Nevers.
Ah. Donc ce serait pas l'Est, mais ce serait plutôt Nevers.
Ah oui, il y avait un piège.
Ah, il y avait un piège. Comme si je tendais des pièges.
Et puis on retrouve le symbole turc,
la tulipe. Oui, il y a évidemment des citations orientales. Hein. Vous avez raison de souligner. On regardait tout à l'heure les tulipes et les œillets dans la pièce d'Israël.
On les retrouve là.
Donc c'est une pièce d'inspiration orientale. Mais on hésite entre Nevers et l'Est.
Nevers.
Nevers. Plutôt Nevers. Donc en fait, pas l'Est. La fois dernière, on avait beaucoup pensé au choc germanique, vous savez, au Ferry, vous savez, dans comme ça. Mais donc, finalement, vous vous disiez que, disons, c'est une sorte de faux amis, en quelque sorte.
Ouais.
OK. Eh bien, on verra. Alors là, au niveau de la forme, c'est quoi?
Une chevrette.
Absolument. Une sorte de vase, c'est essentiellement un vase qu'on utilise dans les pharmacies, je crois. Une chevrette. Un décor de grand feu monochrome. Bien. Même demande, je suis désolé de vous lasser un peu en demandant toujours la même chose, mais c'est le but. Hein. C'est où ça?
En fait, c'est le décor blanc sur le bleu,
sur fond bleu.
Oui, enfin...
Ou l'inverse.
Non, c'est plutôt un décor bleu en réserve, si vous voulez. C'est-à-dire que le décor bleu laisse en réserve...
Ah, oui, parce que...
Oh, oui.
Oui. Bien sûr.
Ah oui. Oui, c'est-à-dire qu'on n'a pas peint tout en bleu, pour ensuite repeindre en blanc. Oui. C'est un décor bleu en réserve... Et qui, alors, parfois, il y a quand même des fleurs et autres qui sont bleutées, si vous voulez.
Oui, oui, hein, oui, oui, il y a des coups de pinceau blanc.
Ouais.
Il y a un mot d'écriture.
Non, vous avez peut-être raison, c'est peut-être plutôt un décor blanc sur fond bleu. Peut-être qu'on a peint en bleu et peint en blanc par-dessus. C'est possible. C'est difficile de dire. Hein. Parce que ça existe, un décor en réserve. Hein.
Oui,
mais là, c'est peut-être pas ça, effectivement.
Ça serait plus silhouette. Ça serait plus un effet de silhouette.
Oui.
Plutôt
oui.
Que
oui.
Retravailler.
Oui, oui. Donc c'est peut-être un fond bleu sur lequel on a repris du blanc. C'est possible.
Ça se voit bien sur la...
Lance.
Ouais, parce que
c'est... Ouais.
Parce que sur Lance, c'est forcément des coups de pinceau bleu.
Ouais, ouais, par-dessus. Oui. Oui. Ou alors, il faut vraiment à chaque fois cerner. Ça paraît difficile. Ouais. Non, c'est plutôt ça. C'est plutôt une pièce peinte en bleu et repeinte, dessinée en blanc par-dessus. Et alors, ce genre de décor, on voit ça où ?
16e.
17e plutôt ?
16-17.
16-17, donc tôt. Et vous voyez ça où ?
Ouf. Non, pas monsieur.
Bon, bah écoutez, on verra où on voit ça tout à l'heure. Hein. Alors là, c'est pareil. Quel type de pièce est-ce ? Un albarello. Hein. Donc, c'est, je vous rappelle, ce sont des pièces de pharmacie, hein, essentiellement.
Avec des feuilles de
vigne. Oui. Une technique un peu spéciale.
Oui.
Les feuilles... brutes sont même un peu brillantes. C'est un décor de quel type ?
Ah oui.
C'est on a appelé ça... Alors qu'il y a une glaçure, mais ces feuilles brunes sont en même temps brillantes, un peu comme du métal.
Oui.
C'est du manganèse.
C'est
pas du
manganèse.
Donc ce sera en Espagne. Donc à quel endroit ? Dans quel coin ? Et ces décors un peu brillants, brun brillant, il faut penser à de l'or et qui n'en sont pas.
Une influence orientale.
Pardon ?
Une influence orientale.
Une influence orientale, une influence mauresque. En Espagne, si c'est bel et bien espagnol, on ne sera pas surpris. Hein.
En Andalousie ?
Andalousie ? Et on est quand ?
Au 16e.
16e. Donc tôt.
Tôt.
Ah, alors, on n'a pas vu, non ?
Non, on
n'a
pas vu, mais...
On a peut-être vu des choses équivalentes.
C'est du roman.
Alors, puisqu'on a vu ça, c'est roman ?
C'est
roman. C'est roman. Roman. Un décor au...
Lambrequin.
Voilà.
Donc, roman, décor lambrequin, 18e.
Oui.
Très bien. Je vous mâche le boulot, là.
Revoilà un truc vite fait.
Ah, comme les Chinois tout à l'heure, c'est le même genre de choses. Ce sont des Chinois, là ?
Non.
C'est quoi ? Des Italiens. Non, à droite, il y a un personnage avec un grand chapeau de paysan, et à gauche, une dame avec peut-être un chignon, enfin, oui, un truc dans ce goût-là. C'est plutôt une dame à gauche, hein ?
Oui.
Et avec la chevelure ramassée, si vous
ça a l'air.
Oui, disons une gorge avantageuse. Donc ça discute. C'est rustique. Ça se passe à la campagne. Ça évoque quoi ?
C'est du vite fait.
On a parlé.
Dessin vite fait.
Pardon ?
À presto.
Alors c'est un dessin rapide. En fait, alors on est en Italie alors ? Comme les Chinois tout à l'heure. La petite assiette bleue aussi.
Oui.
Ouais. Mais là, ce n'est pas des Chinois. Et alors, ces personnages, en pas des Chinois, vous rappellent des choses ?
Oui.
Ah.
Et des histoires de contes, là.
Des histoires de contes ?
Oui, qui racontent. Enfin, il n'y a pas de base d'histoire. C'est juste des personnages comme ça.
Donc c'est juste un petit décor rustique pour faire l'union de petits bergers. C'est gentil. C'est charmant.
Il n'y a pas d'histoire.
Il n'y a pas d'histoire. C'est des petits bergers pour mettre des petits bergers. Quoi. OK. Et on est où ?
En Italie.
En Italie. Un décor rustique, un peu comme ça. Super.
Un
cliché. Un pichet couvert. Rouen. Alors, oui, Rouen, qu'est-ce qui vous fait parler de... Qu'est-ce que vous pensez à Rouen ?
La couleur.
La couleur. Ouais. L'espèce de réseau en bas. Oui. Il y a d'autres choses encore qui vous font penser à Rouen ? Le bleu.
Le jaune.
Ouais.
Quoi qu'il y avait Marseille, on
ne
les a pas fait
dans
Marseille.
Ah oui, zut, on n'a pas vu le paillon de Marseille.
On n'a pas fait.
Enfin, semble-t-il.
Si, tout à l'heure, on a vu Marseille. Avec l'or, oui. Avec les épreuves.
avec les écrevisses, Marseille. Enfin, certains ils parlaient de la Normandie, enfin de Rouen, mais bon.
C'est pareil, hein.
Oui.
Ça peut être Marseille.
Certains voient Rouen, d'autres Marseille. Alors, on va peut-être s'entendre là-dessus.
Ah, ça, c'est une femme de la Fontaine.
Laquelle ?
Le renard et les raisins.
Ça raconte quoi ? Ça, c'est pour le fun, non ?
Un renard qui regarde des raisins. Ouais. Comme il ne peut pas les attraper, ils ne sont pas mieux.
C'est ça. Hein, c'est un renard qui garde des raisins, mais ils sont très hauts, ils n'arrivent pas à les attraper. Et puis, Dieu, oui, en fait, je ne les attrape pas, mais de toute façon, ils ne sont pas bons. Ils sont bons pour les goujats. Bon, voilà. Ces raisins sont trop verts et bons pour les goujats. Et donc, il repart. Merveilleux. Et alors, ça a été fait où, ça? Vous pouvez nous rappeler des choses?
Oui. Ça doit être une collection.
Alors, pas tout à fait, mais ça nous rappelle par l'esprit des choses qu'on a vues.
Oui, 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 avec ce décor, la vite fait, sous le marmier, etc. Oui.
Ouais. Bon, eh bien, ça nous rappellera quelque chose tout à l'heure.
La 18e. Et c'était très large.
Pardon ?
C'est très léger.
Très léger. Ce qu'on appelle les fleurs
oui, naturelles.
Au naturel. Comme si elles étaient chaudes, jetées comme ça.
C'était le Grand Est.
Oui. Grand Est. Donc faïence de l'Est.
Oui.
Ok. Tout ça, c'est de la révision. Monsieur, petit à petit, vous allez voir. Tout à l'heure, quand on va débriefer, ça va être dur. Puis jusqu'à la semaine prochaine, il y a une semaine sans rien, mais une interro écrite.
Oui, on n'a plus le temps de réviser.
Ah ben, vous aurez une semaine.
Bon, c'est monochrome.
Monochrome.
Grand feu.
Grand feu, un plat polygonal.
Nevers.
XVIIe. Ça vous va, ça?
Oui, oui.
Eh bien, écoutez, si ça va, tout le monde, hein, je ne vais pas contrarier les mâts de l'Assemblée. Carrément.
Ah, on dirait du grès en dessous, non? C'est quoi en dessous?
C'est de la faïence.
C'est de la faïence aussi, parce que c'est marqué.
Voilà, il est mais peut-être un peu gris, les ouvres, mais c'est de la faïence.
On a l'impression qu'on a effacé quelque chose, parce qu'il y a des bordures par endroits.
Oui. Et vous avez raison, il y a sur le marli. Un décor.
Oui, presque.
Alors, quand on a la pièce, on le voit. Hein. Mais là, j'avoue que ça venait ici. On est dans quel contexte, à votre avis? Quel lieu? Quel endroit?
C'est blanc sur blanc. C'est...
Blanc sur blanc. Ça vous rappelle quel genre de choses que l'on a peut-être vues?
Une faïence fine. Non, parce que là, on a vu.
Quand vous voyez ça, vous dites c'est originaire d'où? Ah ouais.
Ça fait pas très fin.
pas très France. Pardon.
Ça fait partie des jokers.
Ah, ah ouais. Peut-être des choses qu'on n'a pas vues. Alors, je passe à la suivante.
Ah ben, ça c'est
roi. Ah, ça c'est roi. Qu'est-ce qui vous fait des rois? Allez.
Les cornes d'abondance, les fleurs, les insectes.
Tout, les fleurs, les insectes, les couleurs, voilà. Tout, là, il y a même la résille.
Oui, oui.
Hein, notre chère résille urbaine, là. Hein. Bon, ben donc là, il y a tout.
Ah,
il y a quand même des moments où...
On respire.
Je suis sûr que la suivante, c'est pareil. Vous allez trouver tout de suite.
Ah, ça, c'est Marseille.
Ah, c'est Marseille.
Strasbourg.
Donc, Strasbourg. Vous êtes sûr, hein?
C'est comme le dindon. Il y avait le dindon. Le dindon et le sanglier.
Dindon, sanglier, comme on a un pigeon. Ah, ok, bien. Ouf, on n'est pas passé loin de la catane.
Ouais.
Donc on a un pigeon, et c'est donc...
Une
terrine. Une terrine, et ça a été fait...
Strasbourg
avec
les deux autres.
Pardon?
Même endroit
avec
les deux autres.
Voilà.
C'est Strasbourg.
Donc Strasbourg. Et vous rappelez l'atelier?
Anong.
Donc on aura une pièce de Paul Anong. Enfin, il y a eu plusieurs. Super.
On ne sait pas exactement lequel.
On ne sait pas exactement lequel.
Ça aussi, on a déjà vu. Ah, ben ça, c'est espagnol.
Espagnol. Ouais. Alors, on se rappelle du
corps lustré.
Oui, les corps lustrés, parfait.
Les dorés, lustrés.
Oui, lustrés, hein.
Un lion debout.
Les
symboles un peu mauresques.
Oui, voilà, effectivement. Donc, très bien. Bah, écoutez, je crois que là, on commence à... Hein, à posséder le vocabulaire.
Ah, c'est Marseille. Ah, ça, c'est Marseille.
Marseille. Qu'est-ce que vous faites de Marseille?
Il y a comme un poisson.
Ah, c'est le poisson.
C'est la soupe de
bouillabaisse. Le décor, la bouillabaisse.
La bouillabaisse. Okay.
C'est ça qui vous fait penser à Marseille?
Non, les fleurs aussi au naturel.
Et puis le jaune,
là.
Ce jaune. Ok. Bien. Et ça, c'est quoi comme forme?
Rafraîchissoir
à verre. Hein. On met chaque verre et chaque pied de verre sort dans chacune des encoches. Hein. Très pratique. On met de l'eau fraîche dedans. On met les verres tête en bas. Et le pied sort par chacune des encoches. Bien. Et alors ça, c'est où?
Strasbourg.
Ok. 18e.
Ah ben là, c'est une terrine et c'est Marseille.
Une terrine de Marseille.
On a vu l'autre fois une qui était toute verte, il y avait une assiette avec la veuve Perrin.
Donc on aurait une terrine de Marseille. Hein.
La veuve Perrin.
De la veuve pendant une nuit.
Bien.
Dit
combien qu'à l'époque?
18e. Ah ça, on repart en Italie.
On repart en Italie.
Au 16e.
Ah, Nevers, du fait des majoliques d'Hivernaise.
Oui.
Ok. Ah, c'est vrai, quelquefois. Mais vous verriez plutôt Italie, vous, quand même.
Oui, moi, oui.
Et où en Italie?
16e, Faenza.
Bien, donc on hésite entre Nevers et l'Italie. Bien. Et alors là, un petit plat...
Après.
C'est très fin, très fine. Très légère. Un décor naturel, c'est magnifique.
Après
18e. Très 18e. Bien.
Et ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est resté plus frais que les autres.
Pardon?
Ce qu'on a vu la semaine dernière est plus frais dans notre mémoire que les deux.
Ah bah oui. Et voilà. Enfin, on va voir.
Oui, parce que c'est pareil, on en a On a vu des comme ça aussi.
Et alors ça, c'est où? Pardon?
Un chinois de Strasbourg.
Ouais, un petit chinois de Strasbourg.
Ouais.
Donc on est toujours dans le nord-est.
Oui.
Et
là, on voit ce qu'il fait quand même, le chinois.
Ouais, il fume la pipe.
La pipe au pire.
Ouais.
Oh! Non, mais c'est des vraies olives ou des fausses?
C'est des fausses.
C'est des fausses. Ah.
On dit c'est quoi? C'est
un décor.
C'est un décor. C'est un trompe-l'œil. C'est un trompe-l'œil. Ah oui, parce qu'en fait, ça ne se nettoie pas. Enfin, ça se nettoie. On met rien dedans.
Bah oui, il vaut mieux.
Mais il vaut mieux pas. Hein. On se casse les dents autrement. Voilà. Mais voilà, c'est fait pour être comme ça.
C'est Marseille.
Pardon?
Marseille à cause des olives.
Marseille?
Oui, non, mais à cause des olives, je pense. C'est trop facile.
Donc une facétie marseillaise.
Oui, c'est trop facile.
Non. Trop facile.
Bah, si c'est pas Marseille, tu retrouves le Grand Est. Avec
les... Et pourquoi?
Avec les fleurs.
Ah, les fleurs. Les fleurs vont penser au Grand Est.
Et le bord du Marais.
Et le bord du Marais. Ok, très bien. C'est intéressant pour Lyon, parce que c'est en folie.
Un pic fleur.
Oui, ou une bouquetière. Enfin, ça.
Mural. Oui,
c'est ça. Zapier, autrement dit. Et là, on est où? Un décor très fin, très léger, aérien, avec des oiseaux. Oui, là, il y a eu une section où ça y allait. Hein, où c'était. Bon, allez, on passe très vite.
Moustier,
les guirlandes.
Les petits grotesques.
Eh bien, ouais, je vais vous poser la question. C'est difficile à voir, mais...
Ça souffle, là.
Alors, il y a, ben, à vrai dire, ces deux messieurs...
Ils sont en train de se battre.
Ces deux messieurs qui sont en train de se battre.
Qui luttent.
Ça peut être qui?
Carré
et Abel, ça pourrait. Dans ce cas, ce serait une scène biblique. Si ce n'est pas une scène biblique, mais mythologique, un monsieur qui se bat avec un autre, ça ne monte pas. Hein, mais... là, on pourrait dire, ouais. Bon, enfin, il y a des jets de chauve-souris, il a d'autres ailes de chérubin.
C'est Moustier.
Qu'est-ce qui vous fait? Oui, donc vous aviez dit Moustier déjà.
Oui,
Lié au centre, le combat, non, ça vous.
Alors, le combat.
Bon.
Hercule, non, ils sont pas assez.
Hercule et qui alors?
Celui qui soulève la.
Ouais. Celui qui soulève parce que...
Parce qu'il tire la force de sa fille,
de la terre, oui.
Sa maman.
Voilà.
Et je ne me rappelle plus comment il s'appelle.
Hanté.
Voilà, Hercule est hanté.
Hanté.
Et ce petit plat-là...
Du poisson.
Ah, ben du poisson, donc c'est Marseille. Ok. Donc Marseille, 18e, très bien. Enfin, très bien, on verra.
On a vu les écailles, 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 les écailles,
une autre version.
C'est Michel Les Écailles.
Non, mais c'est
en Italie. Donc on est en Italie.
Ouais, on a vu des
écailles. Donc on est en Italie, on ne sait pas très bien où, mais à quelle époque ? 16e. Italie 16e, le centre est un peu plus difficile à trouver. Ok ? Encore quelques-unes, on a, et après on débrief.
On a vu ces paysages.
Oui, ouais. C'est un petit paysage. On a vu la semaine dernière avec ouais. Un pont,
voilà.
Des bateaux.
Oui, dans les bateaux. Là,
on a vu. Ce petit décor assez léger.
C'était pas Marseille, c'était Marseille.
Marseille aussi.
C'était Marseille.
Même que ça nous
oui, c'était Marseille.
Tout le monde est OK pour Marseille ?
Marseille 18e.
18e ? Ah, ça aussi on a vu.
Ouais.
Ça aussi on a vu.
Oh oui.
Ah, c'est Moustier ça.
Moustier ?
Oui, parce qu'il y a des animaux fantastiques. Il y a les guirlandes. Il y a les guirlandes. C'est du Moustier. Oui, oui, les guirlandes.
Donc on serait à Moustier au 18e.
Moustier. Au 17.
Du 7-18.
Ouais.
Bien.
On s'entend plus.
Oh, oh.
Marseille, à cause du rouge, du jaune. À cause du jaune.
On n'a pas vu ça.
Non,
ça c'est assez nouveau.
Ouais. Ça c'est un qu'on n'a pas vu.
Donc c'est un intrus.
Oui.
Alors, ça fait partie des choses que j'aurais ajoutées.
Peut-être
oui.
C'est pas très
fin.
C'est
pas très
fin.
Bon, ça ne vous plaît pas.
Si,
si ça vous plaît.
Non.
Bon, bon. On va passer aux deux derniers.
Ah, ça c'est marrant. C'est un trompe-l'œil.
Ah, ça c'est marrant, oui.
Oui, c'est un trompe-l'œil. Imitation bois et imitation
ouais.
Papier.
C'est de l'Est.
C'est drôle.
Pardon.
C'est de l'Est.
C'est de l'Est.
C'est pas un charol qui fait juste comme ça.
Un piège. Un truc que je vous ai pas montré.
Voilà,
j'en ai déjà dit.
En fait, c'est en bois.
Pardon ?
En fait, c'est en bois.
Non. Non, c'est pas en bois.
Non.
On dirait du bois, mais c'est pas
c'est tout. C'est bien imité,
mais.
Donc, un trompe-l'œil, étonnant, hein ?
Oui,
double trompe.
Et vous, vous pensez à l'Est ?
Moi j'avais un plat de sac
qui est monté. Parce qu'il y a un faux bois et une fausse étiquette.
Oui.
J'avais un plat de Saint-Clément qui ressemble
deux fois.
Parce qu'il y a quand même l'ombre du papier.
Ah oui, il y a l'ombre du papier.
Non, c'était bien. C'est bien fait, mais c'est faux, c'est un dessin.
C'est un dessin.
Donc c'est du toc, enfin du faux.
Enfin oui.
Ça, on l'a déjà vu.
Oui, oh, peut-être pas. Le décor.
Ouais,
on
l'a
déjà
vu.
Déjà vu.
C'est qui au centre ?
Orphée.
Oui. Vous voyez, c'est un peu redondant les thèmes. Hein. Oui, les thèmes très différents. Enfin, il y en a qui très souvent réapparaissent. Orphée, c'est un des musts de la présentation dans les céramiques. Hein. Vous voyez ça où ?
C'est bleu et blanc qu'on a vu tout à l'heure.
Bleu et blanc, oui, ça fait penser à ce qu'on a vu tout à l'heure.
Ça fait penser à la petite chevrette.
La petite chevrette.
Ouais.
Et ça, vous, comme la chevrette, vous mettriez ça à quel endroit ?
Mais on ne s'en met déjà pas pour la chevrette.
On ne s'en met pas pour la chevrette.
Bien. Vous avez des arguments imparables.
Une aiguière.
On appelle ça une aiguière casque, hein, parce qu'on la renverse, ça ressemble à un casque. Et ça, c'est fait où ?
Alors, c'est vous, Bérin,
ou ça ? Oui, un décor à la Bérin.
Un décor à la Bérin, oui.
Donc, on serait où, c'est un décor à la Bérin ?
Nevers.
Nevers.
Bien. Allez, on a un quart d'heure pour remettre tout ça dans l'ordre. Je ne sais pas que ce ne soit pas dans l'ordre, mais bon, il y a quand même...
Il y a
quand même beaucoup de choses qui sont bien, etc. Il y a par exemple des choses un peu moins bien. Il y a de tout. Alors, j'espère que, parce que les cartels, il y en avait beaucoup à faire, c'est pas toujours simple. J'espère que je ne suis pas trop bourré dans les cartels, je vais voir. J'espère qu'il n'y aura pas des choses à reprendre. On va voir. J'ai classé les diapositives dans un ordre qui évoque, enfin qui permet un peu chronologiquement d'établir les choses. Alors d'abord, vous avez eu tout à fait raison de voir là une pièce d'Isnik. On n'en avait pas du tout parlé, hein. Ça faisait partie des choses nouvelles. Alors Isnik, c'est pas vraiment en Europe. Enfin, vous savez comment on est en Europe. Il y a des moments où on dit que la Turquie, c'est l'Europe. On dit même que c'est l'homme malade de l'Europe. Puis quand on ne veut pas que ce soit européen, on dit non, c'est pas l'Europe. Hein. Ça, c'est bien. C'est la logique occidentale. Alors, en tout cas, Isnik a une production très très importante, hein, qui a été très diffusée en Occident et qui a une grosse influence en Occident,
Donc la céramique d'Iznik, ça fait partie souvent, des choses qu'il faut avoir en tête quand on travaille sur la faïence en Europe. Parce que vraiment, Iznik n'est jamais très loin, si j'ose dire. Hein, voilà. Alors, c'est des choses assez tôt. Là, on est au milieu du XVIIe, mais il y en a qui remontent dès le XVIe siècle. Et les faïences d'Iznik sont extrêmement reconnaissables. Hein. C'est toujours plus loin comme ça. Alors, il y a 1000 types différents. Hein. Mais enfin, voilà. Une faïence d'Iznik, normalement, avec cette espèce de petit nuage que vous voyez là, qui sont plus ou moins inspirés d'ailleurs de l'Orient. Hein. C'est des choses très, très, très typiques. Vous avez bien reconnu les pièces espagnoles qui viennent de Manises. Manises, c'est dans la province de Valence. Hein. Manises, d'ailleurs, à Valence, on a fait des pièces comme ça, mais enfin, Manises était le grand centre. Donc, effectivement, ces pièces-là sont très, très, très typiques de Manises. Donc, on est en Espagne au XVe siècle, c'est très beau. Ça a eu un grand succès. Voilà une pièce de Manises aussi, en fait. Hein. Vous voyez là le lien entre les deux, hein. Ce lustre très typique, assez clinquant, qui fait que ça a beaucoup de succès. Hein. Manises, Iznik, sachant que Manises, c'est aussi très lié au passé mauresque d'Espagne. Hein. C'est vraiment deux éléments qui d'ailleurs incarnent vraiment le passage de la technique de l'Orient vers l'Occident. Cette technique et cette manière de faire la céramique, c'est une chose qui vient de là. Alors, après, il y a effectivement pas mal de faïences italiennes que je vous ai passées. Ça, c'est Urbino. Hein. Urbino a fait beaucoup, beaucoup de ses pièces à Historiato. Hein. Vous savez, on avait vu les fois dernières, la deuxième séance. Hein. Donc, avec vraiment des tas d'histoires mythologiques. Voilà une pièce très typique de Urbino. En voilà une autre, la récolte de la manne. Hein. La mythologie, la Bible font partie du fonds de commerce d'Urbino. Hein. Et alors, la pièce que vous voyez là est également une pièce italienne d'Urbino. On avait vu, je ne sais pas si vous vous rappelez, une pièce à Convent Diario. Vous vous rappelez de ça? Vous ne vous rappelez pas de ça? Vous regarderez sur votre ordinateur préféré la deuxième séance. Hein. Et bien, ce que vous parlez, c'est une pièce toute blanche avec un petit décor, un peu comme un dessin. Hein. On a fait aussi dans la céramique, dans l'imagerie italienne, des choses comme ça, qui, si vous voulez, sont des pièces très, très, très blanches, sur lesquelles il y a des dessins qui sont passés rapidement. Ça s'est fait notamment à Urbino. Il y a un autre type de décor qu'on a fait, alors dont on n'avait pas parlé directement, hein, en Italie à cette époque, c'est le décor blanc sur blanc, bianco sopra bianco. Hein. C'est ce que vous avez vu tout à l'heure. C'est, alors vous, vu ou pas vu, parce que ce n'est pas très dit, mais là, vous avez tout un décor hein, blanc sur blanc. Hein. Si vous voulez, il faut voir que l'Italie a été capable de faire des choses très chargées sur un vieux Urbino, mais également des choses comme ça, au contraire très, très légères, où il n'y a presque pas de teinte, sorte de camailleuse que vous voyez ici.
Le blanc sur blanc a sauté à certains endroits, alors.
Alors, non, en fait, il est complètement là. Mais si vous voulez...
Il y a des parties comme si c'était abîmé.
Alors ici, oui. Oui, ah, là, ça s'est égrené tout autour. Mais en fait, le décor blanc sur blanc, moi, près de l'écran, je vois très bien. Hein. Mais c'est vrai qu'il faut avoir un peu le nez dessus. La photo n'est pas non plus d'une qualité exceptionnelle. Hein. OK. Alors, Italie aussi, ça... Alors là, on est à Castelduranté, hein, une production très typique de Castelduranté, avec notamment des bleus très forts, très profonds comme ça. Hein, ces fameux Belledonne dont on a parlé. Et ça, dont on a vu plusieurs exemples, c'est Derruta. Vous voyez, Urbino, Derruta, Castelduranté, vous avez là quelques-uns des grands centres. Derruta est très typique, vous avez des quantités de plats comme ça, avec ces espèces de grands marlis, avec notamment des écailles. Hein. Ça, c'est très très typique de Derruta. Et puis, bien sûr, il y a Faenza. Hein. Alors, Faenza a fait beaucoup de ces pièces-là. C'est-à-dire des pièces vraiment avec un bleu très intense et un décor assez agrandesque, d'ailleurs, hein, dessus, hein, qui rappelle hein, ces décors agrandesques dont on parlait. Donc, Faenza, qui est évidemment le lieu qui a donné son nom à la technique. Ce genre de pièces-là, un peu plus tardives, c'est vraiment Venise. Hein. C'est Venise, on en a parlé... on a fait à Venise beaucoup de ces vases avec une espèce de médaillon et à l'intérieur des visages assez rapidement faits, un peu caricaturaux, presque sortis du carnaval vénitien, on pourrait dire. Voilà, ça c'est très typique de Venise à la fin du XVIe siècle. Hein. On a continué jusqu'au XVIIe, voire au début du XVIIIe. Et puis ça, c'est également l'Italie. C'est très typique des productions de Savone. Alors ça, c'est un peu plus tardif, on est au XVIIIe siècle. Hein. On avait vu un petit temps sur les faux la fois dernière. Hein. Ce genre de trucs très frappés, sont très rapides, où il ne faut pas trop rechercher une logique de représentation. C'est typique, et en bleu, c'est typique de Savone à cette période. Alors que ça, c'est typique aussi d'Italie, mais de Castelli. On dit bien Savone Castelli, c'est deux dessins très importants qui ont énormément produit en Italie au XVIIIe siècle. Donc tout ce qu'on a vu là, c'est de la faïence italienne à cette période. Alors je vous ai montré après, enfin c'était très, très désordonné, hein, ce plat, effectivement, qui est à mettre dans la lignée de Bernard Palissy. Hein. Donc c'est effectivement ça. C'est, attention, c'est de la terre cuite émaillée. Hein. C'est donc différent comme technique. Là, ça représente Pomone, en fait la déesse des vergers, des jardins. Hein. Donc, vous aviez bien vu ça aussi. Effectivement, dans la lignée de Bernard Palissy, vous savez, je vous avais montré déjà un plat un peu comme ça, hein, mais aussi des plats avec des serpents, des animaux, des mollusques. Hein. Voilà. Donc, on a fait beaucoup ça. Ça a été très, très important en France, au XVIe, mais aussi jusqu'au XVIIe siècle. Et puis une chose que je ne vous avais pas du tout montré, c'est ça. Vous en avez parlé, mais c'est une salière, en fait. Une salière. Seulement, ce n'est pas un petit truc avec... Voilà, c'est pas une salière. Hein, alors, c'est très tôt, hein, c'est pas tard du tout, c'est très tôt. Hein. Et c'était à Saint-Porchaire, dans l'ouest de la France, dans le Poitou. C'est très, très beau. C'est 16e. C'est rare, très rare. Hein, ça, quand ça apparaît sur le marché, c'est inachetable. C'est fait avec du kaolin, c'est une technique très fine qui se rapproche de la porcelaine, mais sans en être tout à fait. Si vous voulez. Voilà, pardon.
Il avait un couvercle.
Non, il n'y avait pas de couvercle. Non, c'est avec du sel, comme ça. Donc, c'est des pièces très rares, des pièces de Saint-Porchaire, bien conservées dans le monde, il y en a peut-être une vingtaine. C'est vraiment. Bon, voilà. C'est donc une très, très, une production très courte, mais de très grande qualité, et du 16e siècle. Alors, ce que je ne vous avais pas montré et qui a été une des choses trappes, c'est Delft. Delft, on n'avait pas du tout parlé aujourd'hui, on ne peut pas ne pas parler de Delft. Hein. Delft, c'est l'un des grands centres financiers en Europe, avec les centres français dont on a parlé, on ne pouvait pas ne pas en parler. D'autant que la production de Delft commence dès le 16e siècle hein, et continue au 17e, au 18e, on ne pouvait pas ne pas en parler. C'est toujours très néo-oriental, ça c'est clair, hein. Et c'est une matière et une épaisseur qui rappellent la porcelaine. Ce que vous voyez là, ce n'est pas une bonne grosse platasse française, hein. C'est très très fin, très léger. Hein. Quand je lève, on les prend, on n'a besoin de rien avoir entre les mains. Hein. Ça copie, ça reprend l'idée des porcelaines, sauf que c'est de la faïence. Et ça reprend les motifs chinois orientaux, comme on a vu. Alors voilà un exemple. Tout bleu. Voilà un autre exemple que vous avez pris pour Rouen. Pas du tout. C'est en fait très léger. L'éclat n'est pas du tout le même. Hein. Oui, je vois, si vous voyez, c'est presque 30 du 6, c'est très léger. Hein. Et puis le rouge, le jaune, ne sont pas du tout les mêmes. Hein. Donc ça fait penser à Rouen, mais ce n'est pas Rouen. Et c'est donc Delft. Tout comme d'ailleurs ça, vous ne saviez pas trop comment situer. Mais voyez, regardez ces trois pièces-là, communient assez bien, si vous voulez. Hein. Vous voyez ce que je veux dire. Et celle-là aussi, ça, c'est Delft. C'est pas Rouen, c'est Delft. Alors c'est pareil, vous prenez ça dans la main, c'est très léger, ça pèse rien. Hein. C'est de la faïence mais qui reprend l'idée de la porcelaine. C'est à l'écorce chinois. Delft surfe sur cette vague, si vous voulez. Ensuite, en ce qui concerne cette pièce-là, en fait, c'est Nevers. Ce bleu-là, on l'avait vu dans plein de pièces de Nevers, la dernière, mais celle d'avant. Hein. C'est donc de la majolique faite à Nevers, que je trouve d'ailleurs pour des Italiens quand c'est à Nevers, comme il y en avait à Rouen, comme il y en avait à Lyon. Donc ça, c'est une pièce très, très typique. Je vous avais montré l'équivalent avec l'enlèvement d'Europe au milieu. Hein. Très typique de Nevers à cette période, tout comme l'est d'ailleurs ça, qui nous rappelle... alors qu'on est à Nevers, la pièce de Faenza tout à l'heure. Hein. On est donc dans des pièces néo-italiennes, assez tôt, faites à Nevers. Hein. Nevers aussi, et quelqu'un d'entre vous avait trouvé la chose, là. C'est effectivement, c'est Nevers. Ça rappelle l'Allemagne, or c'est Nevers. Je vais montrer une pièce effectivement presque vivante, c'est très néo-oriental. C'est donc pas du tout allemand, c'est Nevers, au XVIIe siècle. Nevers aussi, ceci. Ce que vous avez là, c'est Nevers. Hein. Le bleu de Nevers, après tout, il est important. Hein. Hein. Et d'ailleurs, non seulement ça, c'est Nevers, hein, et vous y voyez un décor au chinois, mais également ça. Où vous voyez effectivement deux bergers et bergères en train de discuter. Vous savez, je vous avais dit comment à Nevers, au 17, puis 18e, mais surtout 17e, on s'est beaucoup inspiré de l'astrée de Noriburfe. Hein. On appelle ça les décors astriens, vous savez, on en avait parlé. Hein. Voilà. Et donc, on représente beaucoup de bergers et bergères en train de discuter, on ne sait pas trop ce qu'il faut, effectivement. Hein. Mais voilà, c'est inspiré de l'astrée de Noriburfe, c'est-à-dire des scènes très bucoliques avec des bergers et des bergères qui, voilà, discutent beaucoup. Voilà. Nevers aussi, ceci. Vous savez, on avait vu il y a deux séances un saladier au pont de Nevers et un autre saladier avec l'arbre d'amour. Nevers a fait beaucoup de pièces de ce genre. C'est-à-dire des pièces qu'on peut qualifier de populaires. Souvent, c'est des faïences patronymiques. Rappelez-vous, le pont de Nevers, il y avait Saint-Pierre et Saint-Jean-Baptiste. Hein, voilà. Donc, ils sont souvent patronymiques. Donc, si vous voulez, des faïences d'obéissance très populaires, on en faisait 50 par jour, hein. Et voilà, et ça, c'est une pièce de Nevers. C'est tout à fait un autre registre. Vous voyez, c'est pas le côté savant de la veuve Perrin à Marseille. Hein. Mais quand même, on est dans une pièce très charmante, très savoureuse. Et Nevers a multiplié ce genre de pièces, qui est évidemment des pièces beaucoup moins chères que d'autres, hein, mais qui avaient une diffusion énorme, on le trouve partout. Beaucoup d'autres centres ont fait ça, mais enfin, Nevers a été un des grands centres en France de genre de réalisation. Et puis, il y a Rouen. Et ça, en fait, c'est Rouen. Et c'est un plateau. C'est Rouen, au XVIIIe siècle. D'ailleurs, finalement, vous reconnaissez ce genre de décor hein, qui rappelle plus ou moins les Lambrequins, sauf que là, c'est fou. On est dans le grand art. Rappelez-vous la dernière fois, ou celle d'avant, je vous avais montré des grands plats de Nevers. Hein. Alors, ils étaient ronds, si vous voulez, rectangulaires. Hein. Mais vous aviez d'abord ce même chromatisme-là, et je dirais, c'est une espèce d'impeccabilité un peu, entre guillemets, sèche. Hein, Nevers, pas Nevers, pardon, Rouen, c'est un peu sec, c'est un peu... vous voyez, un peu froid, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire hein. Ça n'a pas une espèce de chaleur. Alors, c'est impeccable, hein, mais c'est un peu sec, encore une fois. Hein. Ça, c'est très, très typique de Rouen. De même que, vous avez là, un pichet couvert de Rouen. Hein. Alors, on retrouve effectivement des éléments qui peuvent rappeler Lambrequin, mais également ces fameux cerisiers. Et puis, les couleurs que l'on retrouve. Ah, ça, j'ai oublié de vous le mettre, tiens. Je m'en rends compte maintenant. Là, voilà un saupoudreur, une saupoudreuse, qui est en faïence de Rouen. Vous voyez les petits lambrequins, un décor bleu très, 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 très typique. Hein.
Un deux morceaux
vous pouvez effectivement enlever ça, ça se fixe, l'un se fixe sur l'autre, et vous, il y a une sorte de pas de vis, si vous voulez. Enfin, qui part. Donc on peut fixer l'un sur l'autre, et on saupoudre. Donc ça, c'est très différent. C'est les pièces plus simples, on va dire. Et alors, Rouen, toujours, avec ça. Hein. Ça, cette pièce-là, montre notamment ces jaunes et ces bleus et ces rouges un peu orangés qu'on a beaucoup dans les pièces. Et puis, regardez bien ces petites choses-là. Hein. Des choses qu'on trouve volontiers, qu'on avait vues la dernière fois. Notamment sur les Rouens à la corde. On retrouve les mêmes oiseaux et les mêmes insectes. Hein. Alors, Rouen toujours avec cette pièce au lambrequin, typique, hein, voilà. Et Rouen encore avec ça. Hein, vous l'avez quand même, mais regardez, c'est les mêmes roses rouges orangées et les mêmes animaux que vous aviez dans la pièce précédente. Rouen, vous avez bien identifié aussi sur cette pièce-là. Ça, vous l'aviez bien dit. Donc, on n'est pas là dans l'extraordinaire dextérité du grand plateau que je montrais tout à l'heure, hein, qui est une pièce avec des armes très chères, etc. Là, c'est le Rouen de Monsieur Madame Tout le Monde. Enfin, c'est très, ça reste très, très beau. Hein, et très typique de Rouen, très bien fait, etc. Toujours un peu, vous voyez, stock, très, très, très sec, entre guillemets, mais dans le bon sens du terme, très parfait, avec toujours notre petit trésil au centre. Il y a un centre dont on n'avait pas parlé, mais qui a été très, très influencé par Rouen, parce que c'est un faïencier de Rouen qui s'est installé, c'est Saint-Senis. Saint-Senis, c'est en fait dans l'Aisne, c'est en Picardie. Pas très loin de la Normandie. Hein. Et donc, il y a un maître faïencier de Rouen qui est installé à Saint-Senis et qui a fait du Rouen et à Saint-Senis. D'ailleurs, regardez là, les petits oiseaux, les petits voyelles, regardez les plantes que vous avez, c'est les mêmes que dans l'assiette avec le panier que je vous ai montré précédemment. C'est pareil. En gros, c'est la même chose, sauf que ça, c'est Saint-Senis, et que, avant, c'est... Pardon ? Oui, c'est des... Donc, vous voyez, on a là, Saint-Senis est une sorte de satellite de Rouen.
Et puis, bien sûr, on a toute la grande saga de l'Est. Bien sûr, Paul Lalongue à Strasbourg. Vous avez reconnu cette terrine. D'ailleurs, le trompe-l'œil, c'est également Strasbourg-Paul Lalongue. Hein. Vous savez, on a fait beaucoup de choses comme ça à Strasbourg. Hein. Il était très spécialisé là-dedans, dans des choses fausses, mais assez monumentales. Paul Lalongue toujours avec ce genre de pièces, on avait vu la départ. Alors c'est pas après, c'est bien Paul Lalongue, c'est Strasbourg. Donc dans quelque chose de très léger. Rappelez la dernière fois, je vous ai montré la scène avec une pivoine un peu. Voilà, c'est le même genre de choses. Alors c'est vrai que d'autres centres plus ou moins satellites ont pu faire des choses équivalentes. Alors ça, c'est haut du pavé de la céramique à Strasbourg. Hein. On a des choses plus courantes. Hein. D'ailleurs ça c'est Saint-Clément qui est en Lorraine. Mais qui fait partie de ces satellites strasbourgeois. C'est ce qu'on appelle la Fiance de l'Est, hein. Strasbourg, c'est. Enfin, on faisait tout à Strasbourg. Hein. Déjà, on est à Nantes, le haut du pavé, hein. Des choses magnifiques comme ce que vous venez de voir. Autour, hein, c'est clairement, on fait des trucs voilà, qui restent tout à fait bien, hein, mais qui sont quand même, vous voyez, ces grosses fleurasses, c'est un peu plus. Hein, voilà, c'est un peu moins raffiné, on va dire. Idem, là, vous voyez une chose des îlettes. Alors, les îlettes, c'est pareil, c'est toujours en Lorraine, toujours un satellite de Strasbourg. Alors, on voit bien l'écho hein, de ce que fait Strasbourg, mais évidemment, une sorte de côté répétitif que l'on retrouve d'ailleurs dans ces autres faïences avec des Chinois. Voilà encore une pièce des îlettes, très typique. Hein. Vous reconnaissez et les couleurs et la manière de faire. Mais il y a un centre qui va un peu se détacher. La dernière fois, on a vu même qu'ils avaient fait des choses en faïence fine, monochrome, hein, et également des petites statuettes. C'est Niedervillers. Hein. Voilà une pièce de Niedervillers tout à fait extraordinaire. Hein. Niedervillers, si vous voulez, c'est dans ce truc de l'Est où il y a Strasbourg, hein, et puis des tas de satellites, notamment Lorraine. Niedervillers, c'est un peu un lieu qui va faire de tout aussi, mais qui va se détacher notamment de la famille du comte de Custine, et qui va faire des choses un peu plus étonnantes, de la faïence fine, monochrome, comme on a vu la dernière fois, ou ce genre de choses absolument virtuoses. Pardon ?
Ça fait presque tableau.
Oui, absolument. Après tout, c'est de la peinture. Alors, voilà, ça, c'est clair. Hein. Alors, vous savez, la dernière fois, on avait parlé de Meillonnat, qui est en train de nous rendre d'après, hein, de Sceaux même, hein, qui sont des lieux, des centres faïenciers, peut-être moins importants, mais importants quand même, où on fait des choses qui peuvent rappeler le meilleur de Strasbourg ou le meilleur de Marseille, quelque part. Hein. Il y a des choses très... On voit bien que ce n'est pas roman, que ce n'est pas Nevers. Ah, il n'y a pas à se tromper, si vous voulez. Hein. On voit aussi qu'on pourrait se dire, tiens, c'est peut-être Strasbourg, c'est peut-être Marseille. Non. Après, Meillonnat, Sceaux sont des lieux qui vont développer ce genre de choses, des choses très belles, hein, en petit feu, hein, et qu'on avait pu voir la dernière fois. Et puis, il y a le Sud. Alors, ça, c'est Moustier. Là, vous avez un décor à l'Abérin. Un décor à labyrinthe, typique de Moustier. Et enfin, on a vu ça sur des assiettes. Mais on peut voir ça sur des aiguères. Hein. Un décor à labyrinthe, tout à fait typique de Moustier-Sainte-Marie. Hein. Tout comme Moustier-Sainte-Marie aussi, dans ça, vous l'avez bien identifié, hein, très typique, avec Hercule et Anté au centre. Hein. Et là, bien sûr, et là vous l'avez bien vu, un décor très typique de Moustier, avec ses personnages plus ou moins monstrueux et grotesques, pas de problème. Là, en fait, c'était du film. Ça, c'est une pièce de Marseille. Vous avez montré la dernière fois un plat de télé fauché avec Andromède, Percé et Andromède. Hein. Oui. Une variance assez sombre, etc. Ça, c'est fauché, c'est un décor naturel. C'est un peu sombre, un peu. C'est fauché. C'est assez typique de Marseille. Et ça contraste beaucoup avec les productions de l'atelier de la veuve Perrin ou d'autres ateliers comme Gaspard Robert. Hein. Ça, vous avez bien vu. C'est Marseille 18e, donc effectivement des choses très légères, très diaphanes, comme par exemple ça, hein, qui est justement Veuve Perrin, Terrine, hein, voilà, ça vous l'aviez bien vu, ou bien le plat, que vous aviez également bien vu, hein, après tout, voilà, et cette assiette-là, typique aussi des adieux de la Veuve Perrin. Voilà, j'ai débriefé après tout ça. Je pense que ça fait du monde, hein, mine de rien. Hein. Mais je pense qu'après toutes ces séances, notamment les trois dernières, plus celle-là, vous avez mis de remettre. Je crois que maintenant, si on vous montre un Strasbourg ou un Rouen ou un Nevers, vous allez voir, ou une nagerie italienne, vous allez pouvoir quand même un peu voir ce qu'il en est. Hein. Encore une fois, j'ai voulu vraiment qu'on s'en tienne à ça pour ne pas exploser dans tous les sens. Parce que si on flanque encore d'autres fabriques et d'autres types de techniques comme la porcelaine,
je pense que ça aurait été un peu compliqué. Là, l'idée était au moins qu'on se débrouille dans les grands centres faïenciers en Europe occidentale, entre le 16e et le 18e. Et je pense que là, on commence à y voir clair, c'est
le Japon.
C'est le Japon.
Merci.
Bravo. Et la fois prochaine, pour ceux qui reviennent, ce sera tout différent.
Alors, et bon, enfin...